La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 $ par semaine.
C'est maintenant rendu une habitude. Le dernier épisode de l'année, on fait une rétrospective des événements marquants de l'année en cours. Donc, en 2019, une foule d'événements sont venus secouer l'univers des véhicules électriques. Et avec mes trois invités en studio, on tentera d'en faire le tour et de vous faire découvrir ce qui nous a allumés en 2019 dans le monde de l'électromobilité. Tout ça et bien plus encore dans le 70e de Silence on roule. Bienvenue à ce spécial Silence on roule, le top 10 des événements de 2019. Alors, j'ai mes acolytes en studio, le premier et non le moindre. C'est rendu mon collaborateur le plus assidu, François Viau. Salut François.
Salut Martin.
Ça va bien?
Ça va bien toi?
Top shape mon ami. Pour débattre entre nous, on a d'autres invités. La deuxième, Louise Lévesque. Bonjour Louise.
Allô, allô.
Louise, que vous connaissez sans la connaître, peut-être ceux qui sont plus proches de l'AVEC, vous l'avez sûrement déjà rencontrée, mais elle s'occupe entre autres de nos communications, de nos événements. Elle fait un travail formidable depuis un an. On en profite pour te remercier.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Puis en même temps, ben une électromobiliste qui a beaucoup d'expérience. Donc on va être capable de débattre de sujets intéressants. Et non pas en studio, mais à distance, dans ses propres studios retranchés de la Naudière, l'illustre Philippe Janson. Salut Philippe.
Salut Martin, ça gaz.
Ah, ça gaz, c'est le cas de dire, ça gaz solide ici, il n'y a pas de problème. Écoutez, tout de suite, une petite mise au point pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc, le top 10, c'est un top 10 qui a été fait, comme on dit, avec de bonnes intentions. On est conscient que chacun peut se construire son top 10, puis probablement que ce ne sera pas les mêmes événements ni dans le même ordre. C'est pas tellement grave. L'important, c'était de relater 10 événements marquants de 2019 et de pouvoir faire une rétrospective de l'année en les décrivant avec un peu plus de détails. Maintenant, ça n'enlève rien aux autres événements dont on parlera pas, qui peuvent être très importants pour différentes personnes. Faut pas prendre ça avec un sérieux plus grand que ça n'a en réalité. Donc, c'est uniquement pour être capable d'en débattre entre amis. Je pense que c'est de cette façon-là qu'il faut prendre ça aujourd'hui. Vous êtes prêts à commencer ça?
Absolument.
Oui. Donc, on va y aller tout de suite avec la 10e place.
Donc, la 10e place dans ce top 10, c'est Théo Taxi n'est plus. Donc, en janvier 2019, fin janvier 2019, on annonce la fermeture de Théo Taxi après quelques années en fonction. Donc, la flotte de Théo Taxi qui avait des véhicules principalement électriques. On se rappelle les Kia Soul, les Nissan Leaf, certaines Tesla également, qui avaient des couleurs vertes et blanches, ouais. Qui se distinguaient assez facilement. Donc, on annonce la fermeture de Théo Taxi à ce moment-là, après de multiples difficultés financières, aussi avec les lois au niveau du taxi qui n'étaient pas évidentes. Je pense que ça a été un gros challenge pour M. Taillefer, toute la réglementation qu'il y avait à faire avec ça.
C'est un élément important, en fait. Hein, beaucoup de personnes avaient soulevé ça comme étant un échec de la voiture électrique, quand en réalité, les raisons de la fermeture n'ont rien à voir avec le fait que les véhicules étaient électriques. C'était beaucoup plus le modèle de business, donc de transformer le travail du taxi, qui est un travailleur autonome, en un salarié. Oui. Ça avait son lot de complications, de la syndicalisation. Je pense que ça, c'est ce qui a été un petit peu difficile. Là.
Effectivement. Oui, vas-y, Philippe.
Oui, en même temps, qu'Uber rentre dans le décor, puis il voulait se moderniser avec du nouveau software, puis il y avait des limitations dans la loi pour pouvoir suivre. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps qui ont donné un coup de grâce, là, mais ça n'a pas rapport effectivement à l'auto électrique, même si on fait cette association-là. Là.
C'est de valeur pareille parce que la clientèle, ce qu'on a pu voir dans les médias dans les réseaux sociaux, on voyait bien que la clientèle appréciait la formule, appréciait là, l'application mobile et tout. Même s'il y avait des fois des titres ratés là, dans les heures de pointe.
Oui, au début, il y avait des titres ratés.
C'est ça. Mais c'était une formule qui était appréciée. Mais effectivement, ce n'est pas... Moi non plus, je ne pense pas que c'est clair que ce n'est pas un échec du véhicule électrique, du modèle véhicule électrique, mais bien d'autres contraintes. Des nouveaux venus, il y en a qui vont tenter la chance l'année prochaine.
Il y a les taxis BYD qui arrivent, qui ne seront pas une compagnie de taxis indépendante. Je pense que les véhicules vont être... les conducteurs de taxis, peu importe avec quelle compagnie de taxi ils travaillent, qui vont pouvoir se louer le taxi. Donc, c'est un modèle, c'est une approche qui est différente. Donc, ils fournissent ce taxi avec l'équipement, tout ce
qui... Donc, ils rentrent dans le modèle d'affaires actuel au lieu
ils sont plus proches
créer
du modèle
un nouveau
d'affaires
modèle.
Actuel.
Ouais.
Et en contrepartie, on a Pierre-Carl Péladeau qui a fait l'achat de Théo Taxi. Il a fait le rachat. Et aux dernières nouvelles, il repartirait la compagnie, dans le fond, au printemps 2020. Ou été 2020, là, selon ce que j'ai entendu là, dans les dernières nouvelles, à confirmer. Mais bref, ça pourrait être une renaissance de Théo Taxi avec de nouveaux véhicules électriques parce que même si on dit que c'est pas les véhicules électriques qui sont en cause, certains disent que c'est peut-être arrivé 2 à 3 ans trop vite, alors qu'on aurait pu profiter des plus longues autonomies qu'on a sur le marché présentement.
Il faut avouer que les taxis, il y avait des Tesla, il y avait des Kia Soul, il y avait des Leaf de première génération. Mettons qu'avec les Kia Soul puis les Leaf particulièrement, je dirais, c'était pas les véhicules idéaux pour de la recharge rapide l'hiver de surcroît. Donc c'est pas les véhicules qui avaient les plus grandes performances. Il y avait un modèle aussi où ils se chargeaient sur leur borne à eux, donc tu laissais le véhicule sur une borne puis tu sautais dans un deuxième taxi qui lui était chargé parce qu'il avait été branché préalablement, puis tu continuais ta route. Donc, une rotation, ça demande plus de véhicules, ça demande d'avoir ta propre infrastructure de recharge. Donc, c'était quand même, c'était ambitieux, je trouve.
Ça demandait un coût initial assez important. Je pense qu'on a tous contribué un peu à ça, sans nécessairement le savoir, mais oui, effectivement, ça, c'était tout un challenge pour une première.
Moi, je pense qu'il faut...
Moi, je me rappelle d'une des... Oui, vas-y.
Non, Fred, pas Fred, mais Phil, je te vois t'appeler Fred toute la soirée, fais-toi-en pas.
Ah, n'est-ce pas Fred?
Je me rappelle d'une... Ouais, hey, c'est qui ça? Comment ça?
Ah, n'est-ce pas Fred?
Ça me dit quoi, ce voix-là?
Oui, c'est une voix connue.
Oui, moi, je suis un martien.
Martin,
c'est Daniel, ça.
Oh, arrête, Martin, je vais pogner le fou rire.
Vas-y, on t'écoute.
Je me rappelle d'une des difficultés qu'un représentant de Théo nous avait dit, c'est d'avoir des nouveaux permis. Aussi banal que ça peut être, il voulait faire de l'expansion, puis il n'était pas capable d'acquérir des nouveaux permis à Québec, entre autres.
Ouais.
Donc, ça les a nuits, parce que si tu fais pas d'expansion, il faut que tu fasses marcher la roue croissante de cette compagnie-là. Alors, les modèles, d'après moi, c'est tellement pas ça qui a fait l'enjeu. Je me rappelle aussi d'une chose intéressante, c'est qu'il avait fait disparaître le piton démarré sur les bornes de recharge, parce que quand il switchait d'un taxi à l'autre, les chauffeurs, des fois, ils oubliaient de poser sur démarrer puis tout ça. Puis je sais pas pour vous, mais moi, ce piton-là, je l'aime tellement pas, il faut que tu attendes à côté de ton auto de 30 secondes, tu pèses dessus. Ça n'a pas de raison technologique d'exister. Ouais. Puis les nouvelles d'IGA, ils n'ont pas cette fonction-là. Tu plugues ton auto, puis elle va partir. Alors, j'espère qu'on transfère un petit peu de technologie là. Oui. Alors, ça va avoir apporté peut-être de la nouvelle technologie dans le marché volontairement. Puis Pierre-Carl, probablement, ça va pouvoir reprendre comme il faut là, avec ses contacts puis tout. Là, on l'espère. Là.
J'ose espérer effectivement que Pierre-Carl y aura appris des leçons de M. Taillefer puis des difficultés qu'il va avoir eues. Il va en prendre bonne note pour la prochaine année, le prochain départ de Théo finalement.
Oui, je l'espère aussi. En fait, c'est probablement l'une des causes de l'échec, c'est-à-dire le modèle d'affaires de business, là, d'avoir des employés. Il faut quand même, je pense, prendre le temps de se dire qu'on avait là un homme d'affaires qui, dans son esprit, avait toujours dit que l'industrie du taxi, c'est une industrie qui est difficile, puis c'est les chauffeurs qui payent le prix. Puis lui, il voulait, un peu avec une approche d'économie sociale, de dire ben, que le... le pauvre chauffeur de taxi, ben client, pas client, il a le droit d'avoir un salaire. Donc, l'esprit derrière ça n'était pas mauvais du point de vue social. C'était peut-être un petit peu plus difficile du point de vue business, là, mais du point de vue social, de dire ben, que ces gens-là ont le droit à une qualité de vie puis de travail honorable, ouais. C'était tout à fait louable, mais c'était difficile dans le modèle où on était avec beaucoup de nouveautés. Le modèle d'affaires était nouveau, les véhicules électriques, c'était nouveau, l'infrastructure de recharge spécialisée pour ces véhicules-là, c'était nouveau. Puis pour les clients,
oui.
Qui osaient pas trop, hein, qui avaient une mauvaise réputation au début, que c'était long, hein, t'es commandé, puis c'était long, mais qui arrive. Donc, je pense que ça a pu avoir contribué à faire en sorte que le succès a pas, peut-être pas été toujours au rendez-vous.
Finalement, un peu comme les véhicules, excuse-moi, un peu comme les véhicules électriques, ça a brassé la cage de l'industrie.
Oui, oui, effectivement. Phil, t'avais un
point?
Ça a
dû, par exemple, faire apparaître le véhicule électrique pour bien des personnes qui ne le connaissaient pas, juste en prenant le taxi.
Bon point.
Combien de centaines de milliers de personnes qui l'ont pris sur ces années-là, on ne le saura pas, mais ça a dû beaucoup aider la vague.
Effectivement.
Tout à fait. Écoute, avant d'aller au neuvième point, j'aimerais qu'on écoute un petit souhait de Noël.
À tous, je vous souhaite de passer un très joyeux Noël rempli d'amour et d'abondance et surtout, prenez le temps d'être avec les gens que vous aimez.
Vous aurez reconnu Mélanie Réaume qui est notre chroniqueuse là, de VE au féminin. On va y aller avec la neuvième place maintenant. Philippe, parle-nous donc de cette neuvième place-là.
On entend-tu parler pas à peu près de l'empreinte écologique des VE? On dirait que plus que ça pousse, plus que le monde embarque, plus que la force inverse vient lutter contre la progression des VE, mais c'est inutile de lutter, ça va être non arrêtable, mais on en entend parler sans arrêt. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, son empreinte écologique?
Écoute, moi, je te dirais que c'est un des sujets chauds de 2019, c'est l'empreinte écologique des véhicules électriques. Je veux dire, ça a commencé avec... Ça a continué avec l'IEDM, l'Institut économique de Montréal, le Radio-Canada qui a sorti à un moment donné un reportage.
Je pense que c'est ce reportage-là qui a vraiment... Surtout. L'IEDM a allumé la flamme, puis le reportage a garoché du gaz dans la flamme.
Oui, effectivement. Donc, le reportage de Radio-Canada, à un moment donné...
Monsieur Journal?
Je ne me rappelle plus exactement quand. Effectivement. Effectivement, ça a été le point où ça a commencé. Et puis là, ben c'est ça. Depuis ce temps-là, je pense que chaque fois que c'est repartagé, on repart sur le même débat, sur les mêmes points, sur les mêmes apports.
Il y avait déjà des articles qui circulaient, tu sais, de mois en mois. Tu sais, moi, je suis abonné à peu près une centaine de pages Facebook là, dans le domaine. Là. Et puis, mais celui-là, il touche près de chez nous parce que il vient d'une organisation média crédible pour nous, Radio-Canada, qui sort des affaires comme ça. Donc, il revient, il refait surface et c'est fatigant.
Ouais,
c'est... Et c'est difficile, tu sais, d'aller, tu sais, dédire ou, tu sais, contrer les,
ouais,
ce qui est dit dans...
Mythes,
c'est
là.
Ça,
ouais.
De faire ça quand c'est dit dans un média crédible comme Radio-Canada. C'est ça qui rendait celui-là plus pénible quand c'est un média obscur d'un autre pays ou sans enlever l'importance d'autres médias, mais des fois, ils n'ont pas la même crédibilité que cette organisation.
Et ça revient. Moi, je peux vous dire que, bon, quand c'est arrivé, c'est moi qui étais porte-parole. Là. Le matin que c'est sorti, j'ai pris congé. Je savais que ça serait une dure journée. Effectivement, quand c'est Radio-Canada, c'est beaucoup plus dur à défaire et c'est beaucoup plus persistant. C'est-à-dire que les inepties de l'IEDM, ça sort, ça fait un feu de broussaille, là, ça flamme beaucoup, mais ça ne dure pas trop longtemps. Alors que cet article-là de Radio-Canada, j'en entends encore parler presque à toutes les fois où je fais des conférences ou des présentations, il y a quelqu'un qui me dit « Radio-Canada avait dit que... » À juste titre, Radio-Canada a une crédibilité, tant mieux, mais cette crédibilité-là fait en sorte que ce message-là, qui était une analyse d'une étude du CIREG, étude qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui date.
Qui date, oui.
Étude qui est positive pour le véhicule électrique sur la quasi-totalité de ses points, sauf deux points. C'est les deux points qui ont été mentionnés dans l'article du journaliste en question. Ben là, tu as un article qui est théoriquement crédible dans un média qui est crédible. Et là, nous, il faut arriver puis détricoter ça puis penser que ça va se défendre en le temps de le dire. C'est pas facile.
C'est pas fini.
Non, et on en vient qu'à un moment donné à se dire mais qu'est-ce qu'il essaye de prouver? C'est comme, à un moment donné, c'est comme si quelque chose qui est bon, plutôt que de voir qui est bon, tu dis « Ouais, mais sur tel aspect, il est pas bon. » Rien n'est parfait, là. On le sait que rien n'est parfait, mais le fait de fabriquer un véhicule électrique, ça pollue, ben oui, c'est sûr, il n'a pas à construire. Et... Ça serait moins polluant rien faire. Personne ne met ça en question. Mais rouler en véhicule électrique ou rouler en véhicule à essence, il n'y a aucune étude qui démontre, hors de tout doute, que de rouler avec un véhicule électrique, encore plus au Québec, avec une énergie propre comme la nôtre, que ça puisse être plus polluant que de rouler à essence. Fait que là, de vouloir sortir les petites bêtes noires, oui, mais à la sortie de l'usine, l'auto, on le sait, mais il n'y a personne qui sort les autos de l'usine pour les détruire dans les cinq minutes qui suivent. Tu sais,
je fais un parallèle. Si on amène ça par extension, cet article-là fait mal, mais vient donner du vent à un autre argument qu'on entend souvent, puis qui c'est celui qui dit que les véhicules électriques, ça ne réglera pas les changements climatiques. Planter des arbres, ça ne réglera pas les changements climatiques, comme si ça devenait une raison pour ne pas les adopter, parce que ça ne règle pas tout seul le problème. Comme s'il y avait, oui, comme s'il y avait juste une solution qu'il fallait trouver pour
On le répète souvent, c'est une partie de la solution, mais ce n'est pas la solution, évidemment.
Si c'est trop compliqué de trouver une solution, il y a mieux pas chercher, alors que ça va prendre un paquet de solutions dans un paquet de domaines différents pour pouvoir marcher. Alors, il ne faut pas chercher la perfection, il faut juste trouver ce qui est mieux puis de l'implémenter. Non, ça fait pas de sens de continuer à en entendre parler 7 ans après que les voitures électriques sont sorties.
Non,
toutes les mêmes mythes. Puis
c'est vraiment départ. Persistant.
C'est pas Radio-Canada, justement, qui ont une équipe, justement, qui enlève les mythes puis qui font des recherches.
Oui,
ils ont une
équipe
de ça, mais ils poussent le contraire de l'autre bord. C'est incohérent. Comment ça se fait?
Oui, tout à fait. Mais en fait, ils vont me dire que c'est une question d'interprétation puis d'analyse de l'étude. En fait, effectivement, ils citent l'étude, mais ils citent que certaines parties de l'étude. Puis en ne citant que certaines parties, ben, ça donne l'impression que le message de l'étude, c'est celui-là. Alors que l'étude est très favorable à la voiture électrique. Mm-hmm. Puis même là, dans les points où elle l'est un peu moins, c'est des aspects sur lesquels, dans les dernières années, il y a eu des gros changements, entre autres sur tout l'aspect du recyclage de la batterie, ce qui fait que son empreinte écologique est encore moindre maintenant qu'elle l'était à l'époque. Donc, de continuer à citer cette étude-là, dans ses points les plus négatifs, qui sont déjà maintenant, on le sait, moins négatifs qu'ils l'étaient, c'est un peu tordu.
Puis l'étude ne tient pas compte non plus, corrige-moi si je me trompe, mais de la deuxième vie de la batterie, qui fait qu'avant même de la recycler, on va s'en servir comme batterie pour cumuler de l'énergie au niveau des énergies renouvelables.
Là, tout à fait. Aujourd'hui, je faisais une présentation dans deux classes d'élèves du primaire où je parlais de voitures électriques. Et il y a un élève qui m'a parlé de cet article-là.
Oh.
En sixième année du primaire. Là, c'est pour ça, quand on disait tantôt le fait que c'est Radio-Canada, ça a un impact.
Regarde, corrige-moi, là, Martin, je me donne, mais je pense que c'est la personne la mieux placée pour voir ça là, en tant que porte-parole. Est-ce que les médias ont plus intérêt à avoir des clics sur une... Tu sais, je veux dire, ils ont fait exactement ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire faire un article qui allait susciter la controverse, d'aller chercher des réactions et tout ça, puis ça a réussi.
Ouais. Mais on s'entend pas, on s'attend pas à ça de Radio-Canada, honnêtement. Il y a d'autres médias avec lesquels on est plus familier avec ça. Avant d'aller à la 8e place de notre palmarès, je vous demande d'écouter cet autre petit souhait du temps des fêtes.
Ici Stéphane Levert. En mon nom et au nom de ma femme Mélanie, mes enfants Jade et Jacob, j'aimerais en profiter pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes avec famille et amis.
Juste avant de poursuivre, je vous rappelle qu'on a un commanditaire macapuche.com et on va faire tirer une autre capuche. Je vous rappelle les règlements du concours. Vous allez devoir aller sur la page Facebook. Là, il y a un post qui va être envoyé vendredi en même temps que le podcast va être rendu disponible, un post là, en lien avec le concours. Donc, sous le post, vous devez, en bon français, taguer, donc identifier deux de vos connaissances dans le post. Et le jeudi 9 janvier, parmi tous ceux qui auront participé, on va choisir au hasard un gagnant qu'on va contacter, donc jeudi le 9 janvier. Il devra, d'une part, me fournir son nom, son adresse, pour qu'on puisse lui envoyer le prix qu'il aura, espérons-le, gagné, son modèle de véhicule pour lui envoyer la capuche adaptée à son véhicule, ainsi que le mot de passe. Et le mot de passe, il y a un seul moment où je vais le donner, et c'est maintenant. Ouvrez grand vos oreilles. Le mot de passe est « Joyeuse fête ». Qu'est-ce que j'ai dit, François?
Joyeuse fête.
Qu'est-ce que t'as entendu, Louise?
Joyeuse fête.
Phil? Ça s'est-tu rendu dans l'anneau diable?
Joyeuse fête.
Ah ben tabarouette, je pense que ça va passer. C'est correct. On va donc y aller avec la 8e place de notre palmarès. La parole est à toi, Philippe.
Oui, toujours fascinant d'entendre parler des catastrophes qui se passent avec les voitures électriques. Alors, la 8e place, c'est l'explosion impliquant la Kona électrique à Laval. Fascinant parce que, écoute, à chaque fois qu'il se passe une affaire avec une électrique, ça fait le tour de la planète, mais on oublie qu'il y en a 150 voitures essence qui explosent par jour dans le monde. Il y a 345 morts annuellement là-dessus, 1 milliard par année. Ça fait, quand il y en a en gaz, on n'en parle pas. Mais s'il y en a une électrique, on est sûr que ça fait le tour de la planète.
On veut tellement montrer que ça ne marche pas, hein?
Ah, tellement! Qu'est-ce qui s'est passé?
Est-ce que vous avez fait partie des gens là, qui ont cherché sur le web le plus de photos possible puis qui agrandissaient pour qu'on sache c'est quoi le modèle, c'est quoi le modèle?
C'est quoi le modèle?
Moi, mon chum, un moment donné, il dit ça, c'est un bumper de Kia, de Kona.
Écoute,
puis,
c'est ça. Deux personnes qui ont arrêté d'acheter, ils ont retiré leur paiement quand ils ont entendu que la Kona avait sauté. Imagine, deux personnes que je connais.
Ouais. Imagine. Ah,
écoute, ça n'a pas d'allure.
C'est fou, hein?
Ouais. Ah non, c'est moi, quand cette nouvelle-là est sortie, tu sais, je travaille dans le domaine des véhicules électriques et puis dans les communications, donc j'ai plusieurs clients dans le milieu, là, puis là, tout le monde était sur un pied d'alerte parce que là, on a comme fait ça, ça peut déraper rapidement. Ouais. S'il y a des suppositions qui sortent trop rapidement, tu sais, avant qu'on ait les vraies données, tu sais, le char, il était-tu branché, il était pas branché, tu sais, et puis etc. Là. Donc,
Dieu sait que ça s'est fait aller, écoute, à un moment donné, là, puis ça sortait au fur et à mesure, ça sortait, là, ça se populait sur Facebook. À un moment donné, on a su que le char n'était pas branché. Hey, là, ça a été la consternation. Le char n'était pas branché. Qu'est-ce que c'est? Puis, effectivement, moi, j'ai vu des gens sur le groupe de Kona qui disaient, là, ma blonde... Et plus très à l'aise qu'on mette le char dans le garage.
Oui.
Là. Tu sais, que c'était. Puis le pire, c'est que, écoute, il y en a des Kona dans le monde qui roulent ailleurs qu'au Québec, là, puis il n'y a pas un cas même de voiture électrique qui a explosé.
Ça n'explose pas.
Ça n'explose pas. Donc, mais ça, les gens, écoute, moi dans mon entourage, on m'en a parlé pendant des semaines.
Tu sais, moi, pendant peut-être une couple de jours, mettons, si j'avais eu un véhicule de ce modèle-là, parce que, tu sais, on a jasé chez nous, là, et puis, c'est ça, j'avais vu quelqu'un sur Facebook qui avait dit, ben moi, j'ai pas peur, j'ai une Kona, puis je vais la parquer dans le garage à soir. J'avais dit à mon chum, moi, je suis pas sûr que je l'aurais parquée dans le garage à soir, en attendant de savoir qu'est-ce que c'est. Donc, oui, ça a été un gros événement, puis je pense que tout le monde dans le milieu de l'électromobilité, on était sur un état d'alerte, là, tu sais, pendant toute la journée.
Ouais.
Mais
ouais.
On est presque un an plus tard, puis on sait toujours...
Ouais, c'est ça. Ben, ça l'a un peu... contrairement à l'article de tantôt, c'est un peu disparu. Moi, je me rappelle, c'est arrivé pendant les vacances d'été, puis j'étais en vacances quand c'est arrivé. Ouais. C'était pendant les vacances. Donc, j'étais un peu loin, je suivais ça à distance, puis évidemment, je pouvais pas répondre aux médias, puis il y a beaucoup d'appels qui rentraient.
Je
c'est pas moi qui les ai faits, mais je suivais un peu les événements, puis rapidement, puis je sais pas si c'est parce que on était à l'AVEC, donc on avait des connexions un peu à l'interne, mais nous, on a su rapidement que c'était un Kona. On a aussi su assez rapidement qu'il y avait une version contradictoire du scénario, c'est-à-dire que ce qui avait été dit au début, c'est que le véhicule était en recharge, puis dans lors de l'enquête après, le propriétaire disait que non, le véhicule venait d'être chargé, mais il n'était plus branché au moment où ça avait explosé. En tout cas, moi, j'ai parlé à des gens qui sont allés sur les lieux, qui ont été appelés sur les lieux pour de l'expertise. Ça a été une grosse explosion. Là, je ne sais pas si vous avez vu les photos, mais le toit du garage a soulevé, puis a retombé, déposé en angle, puis la porte du garage était rendue de l'autre côté de la rue, chez le voisin de l'autre côté de la rue.
Imagine. C'est pas une petite explosion, là. Tu sais, c'est capoté.
Il y a des pompiers qui avaient fait.
Les batteries sont scellées. Alors, si de la chaleur s'est développée là-dedans, le gaz a pris de l'expansion, puis à un moment donné, ça a sauté. Mais tu sais, une tank à gaz qui va exploser, en plus de faire un souffle, ça va aussi mettre le feu. Tandis que là, ça a été quand même assez limité pour ça. Là.
Mais moi, j'ai. En tout cas, pour avoir parlé avec plusieurs personnes, des spécialistes dans le milieu au niveau technologique, là, et une batterie qui explose comme ça, non,
c'est jamais
même s'il y a de la chaleur, même s'il y a de l'expansion, et si elle brûle, elle va brûler longtemps, mais elle ne va pas exploser.
Je ne suis pas un expert non plus, je n'ai pas vu la scène, puis tout, mais on a vu assez le véhicule pour voir que... Le véhicule n'avait pas l'air si magané. Tu sais, si la batterie dans le véhicule avait explosé au point de le faire virer la toiture puis envoyer la porte de garage à l'autre bout, là, il me semble que le véhicule serait autrement harnaché que ça. Là.
Ben, on est reparti dans les conjonctures.
La théorie du complot.
C'est pas la batterie qui a explosé. En tout cas, on n'a pas entendu d'autres nouvelles. C'est tombé comme sous un point mort. Ouais. Puis ça aussi, je trouve ça un peu spécial. Mais bon, j'imagine qu'un jour, on va avoir des nouvelles. Mais pour l'instant... Moi, j'ai pas l'impression que le véhicule électrique...
J'ai eu des discussions avec des gens qui travaillent en recherche sur les batteries. Et des batteries lithium-ion peuvent émettre... Évidemment, c'est scellé, mais lorsqu'elles surchauffent, peuvent émettre des vapeurs d'hydrogène. Bon, l'hydrogène est contenu à l'intérieur des cellules, là, mais dans le cas où, par exemple, c'est très, très chaud, ou encore qu'il y a déjà un incendie, c'est-à-dire qu'il y a déjà un feu qui surchauffe, ça pourrait arriver que ces vapeurs d'hydrogène-là... Une explosion d'hydrogène, vous le savez, là, on a assez parlé avec les véhicules à hydrogène, là, ça pardonne pas. Et une explosion d'hydrogène, tout dépendant des gaz, là, les gens spécialistes là-dedans pourraient vous l'expliquer, mais tous les gaz ne créent pas des explosions du même type. Donc, il y a certains types de gaz qui appellent ça des gaz propres. Quand ils explosent, il n'y a pas de flamme, c'est juste une poussée. Il y en a d'autres qui vont émettre des vapeurs. Donc, ça va être noir, ça va être noirci. Là, le type d'explosion qu'il y a eu, c'était pas un type d'explosion qu'il y a normalement quand il y a des accélérants, par exemple, comme de l'essence ou quelque chose qui a servi à créer une explosion plus traditionnelle. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est nécessairement ça? Donc, une des vapeurs d'hydrogène qui aurait explosé, dur à dire. Chose certaine, peu importe la cause, c'est vraiment anecdotique comme événement. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble de véhicules électriques livrés dans la dernière année, ou même les 10 dernières années, le nombre qui a explosé n'est pas très grand.
Oui,
c'est ça. Écoutez, on fait un autre petit pause pour un souhait des fêtes et on revient avec notre numéro 6.
Je fais ça dans le coin. Ouais. Okay. Ici Monsieur Côté. Je voudrais souhaiter un joyeux Noël et une belle année à tout le monde. Mais spécialement à ceux qui ont des autos électriques. Aïe, vous autres, vous êtes autant maudits.
Ah, c'est Monsieur Côté. Joyeux Noël.
Joyeux Noël, Monsieur Côté.
Sixième place, Louise. Qu'est-ce qui a retenu notre attention?
Ben, écoute, c'est la popularité, le succès des différents salons de véhicules électriques dans l'année. Il y a eu le Salon de Montréal, le Salon de Québec. Il y a aussi Saint-Hyacinthe cet automne. Donc, on n'a pas les chiffres finaux des visiteurs, là, de l'ensemble de tous les événements, mais on sait du moins à Montréal, François, tu m'as dit 26 000
visiteurs à Montréal cette année, oui.
Moi, j'ai quelques statistiques au niveau des essais de véhicules. Comme vous savez, c'est la VEQ, l'équipe de coordination de la VEQ, ainsi que les nombreux, des dizaines, des douzaines, des centaines de bénévoles de la VEQ qui font des essais pendant ces événements-là. Alors, on totalise un incroyable 5000 personnes dans les trois événements rejointes, plus de 5000 en fait. Donc, on a fait... Pour les essais routiers, oui, effectivement. Là, je parle pas des visiteurs, là, c'est des gens qui ont embarqué dans un véhicule.
Qui ont goûté, qui ont eu la piqûre.
C'est ça. Parce qu'on le sait que c'est ça que ça prend. Là. Mais de plus en plus, les gens, ces salons-là, connaissent une croissance d'une année à l'autre. Ça permet aux gens d'explorer l'offre actuelle et à venir. Et ça permet aussi d'essayer des véhicules avec un système mis en place là, dans chacun des salons. Donc, pour nous ici, là, c'est super.
On le voit,
c'est significatif.
On le voit chaque année, l'engouement là, qui grandit, qui grossit. Il y a toujours de plus en plus de véhicules aussi, des modèles de véhicules qui s'ajoutent, donc qui répondent de plus en plus aux besoins de certaines personnes pour qui ça n'avait pas de bon sens avant.
Ouais.
Ça fait de plus en plus de sens.
Ils sont durs à voir. C'est ça, ils sont durs à voir. Ils sont durs à essayer et à les trouver. Alors, ils viennent nous voir dans nos événements parce qu'on réussit à mettre la main dessus. Là.
C'est super.
Je m'attendrais à ce que ça diminue avec le temps parce qu'ils les connaissent de plus en plus. Mais non, c'est le contraire. Ça augmente puis il y a de plus en plus de monde qui veulent savoir.
Ouais, mais c'est bien ce que tu dis, Philippe, parce qu'une des raisons pourquoi il y a beaucoup de... Un, ils aiment ça essayer les véhicules dans un contexte neutre. Se déplacer chez un concessionnaire pour faire un essai... On le sait, des fois, il y a un petit peu de pression, on n'est pas prêt à aller jusque-là, puis on veut explorer plusieurs véhicules. Mais quelqu'un même qui est rendu au choix de son véhicule, il le sait, je veux tel modèle, mais des fois, il ne peut même pas l'essayer chez le concessionnaire. Donc, il profite d'événements comme ça. Les salons de véhicules électriques assurent un nombre supérieur de modèles offerts. Là. Donc, c'est vraiment une formule. Puis, bien sûr, c'est présenté dans des villes-centres. Donc, la formule attire beaucoup de gens. C'est l'occasion d'essayer une Kona. C'est l'occasion d'essayer tel modèle.
On a un modèle au Québec qui est assez unique. Puis, il faut regarder un peu comment ça se passe ailleurs pour en réaliser l'étendue. Juste pour vous faire réfléchir sur la situation, là. Il y a des endroits comme l'Ontario, par exemple, qui n'a pas vraiment d'association provinciale puis de bénévoles comme nous, on a, mais qui ont un centre qui est géré par Plug and Drive, qui est une espèce de centre d'interprétation du véhicule électrique où il y a plusieurs modèles disponibles sur place. Tu vas là, c'est pas des vendeurs, il y a des modèles disponibles, les gens répondent aux questions puis te font essayer les véhicules. C'est un modèle qui est différent, ils n'ont pas d'avec eux autres, fait qu'ils ont ce modèle-là. Il faut comprendre que le nombre d'essais que peuvent faire les bénévoles de l'AVEC dans un gros événement comme un salon totalise près de la moitié des événements d'une année d'un centre comme celui-là. Mmh. C'est-à-dire qu'en deux événements, en deux salons, là, donc deux week-ends, nous, on fait l'année d'un centre comme Plug and Drive au complet. Là. Donc, je me rappelle le dernier salon qui était le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, de Saint-Hyacinthe, où je suis allé faire un tour. À un moment donné, je suis allé en arrière où les essais étaient en cours, là, puis il y avait Éric Racine qui était là, qui gérait les événements, puis il y avait les bénévoles comme plus proches d'Éric, là, qui étaient comme un peu, on va dire, à la gestion de la dynamique, là, puis c'était vraiment timé. Là. Puis là, à un moment donné, j'ai pris un 5-10 minutes là, juste pour observer la chorégraphie, puis je pense que le terme est quand même assez
excellent.
Bon. Écoute, les essais duraient un certain nombre de temps. Plaque, les autos rentraient, les bénévoles rentraient. Il y avait des numéros. Vous essayez quelle auto, monsieur, un Kona. Kona est supposé arriver dans une minute. À peu près 40 secondes après, tu voyais le Kona rentrer par une porte. Le bénévole rentrait dans l'auto. Le Kona ressortait. Les bénévoles qui venaient de sortir de l'auto, qui avaient encore des questions à poser, puis qui jasaient avec des bénévoles de l'AVEC sur place. Tu avais quelqu'un qui venait les voir, puis lui disait, vous avez des questions? Regardez, on va vous emmener de l'autre côté, libérer ici. Flouc, on libérait. Il y avait des nouvelles personnes qui voulaient essayer les véhicules qui rentraient et ça roulait là, non-stop.
Alors, le système est super bien rodé là. Et puis un événement comme Saint-Hyacinthe, si on veut maximiser le nombre d'essais, on doit maximiser le nombre de bénévoles. Puis C'est incroyable le nombre de personnes. C'est pas tout le monde qui a fait les 2 jours et demi sur le site, mais il y a à peu près 90 bénévoles différents qui ont été impliqués à un moment ou l'autre de la fin de semaine à Saint-Hyacinthe. Les autres, je ne sais pas, j'ai pas toutes les données, mais je profite de ça pour faire un petit à côté, puisque je m'occupe des événements de la VEQ, des communications. Il s'est réalisé plus de 11 500 essais cette année grâce aux bénévoles de la VEQ. Wow. Alors, il y en a 6 000, presque 6 300 dans le cadre d'événements plus ou moins grands un peu partout dans la province, mais en fait, partout dans la province. Et puis, dans les essais, dans les salons, plus de 5 000. Et il y a aussi le service de jumelage. Jumelage.ca, ouais. Où les gens peuvent se fixer un rendez-vous individuel. Et là, on n'a pas comptabilisé toute l'année, mais j'ai des données pour la fin de l'année. Donc, tout ça, ça totalise 11 500 événements, essais, là, personnes rejointes dans le cadre des travaux de nos bénévoles.
Salutations à tous les bénévoles qui font ça, parce que sincèrement, là, moi, à chaque année, à chaque salon, je me dis, j'espère qu'il va y avoir assez de bénévoles, parce que qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Là? Qu'est-ce que serait le salon sans les bénévoles? Ouais. Et puis, à chaque année, je fais comme, waouh, hey, tout le monde qui participe, puis, c'est incroyable.
Puis, il y a deux catégories. Hein. On a près de 800 bénévoles au Québec, là, parce qu'on fait des événements aux Îles-de-la-Madeleine, en Gaspésie, on en fait au Saguenay, on en fait partout. Mais dans la grande région de Montréal, si on prend cette région-là, puis c'est le même phénomène est là dans la région de Québec. Tu sais, t'as Montréal, mais proche, t'as les Laurentides, t'as la Naudière, t'as la Montérégie. Puis on se rend compte que les mêmes bénévoles font plusieurs régions, plusieurs événements. Il y a un troupeau d'indéfectibles. Là, ceux qu'on voit dans les photos postées après les événements, événement après événement. Là, Philippe en connaît une coupe. Hein? Fred, Fred en est un. Hein?
Ah, n'est-ce pas Fred? Ah, n'est-ce pas Fred?
Oh oui, ouais, ils reviennent souvent. Puis, dans le fond, il faudrait aussi qu'on en ait plus. Alors, j'aime passer le message en ce moment pour dire embarquer dans l'organisation, parce que ça va juste en augmentant. Puis, comme moi, dans ma région, j'en ai 20 super actifs qui sont toujours là, mais 20, j'en fais 12 événements. Ils ont 12 fins de semaine dans l'été qui perdent.
Ouais,
s'il peut avoir de la relève, là, ça aiderait, parce qu'il y en a qui sont épuisés. Alors, embarquer, puis c'est juste le fun. Là.
On a du fun au bout. Alors, venez-vous-en.
Louise, sautons tout de suite. Tantôt, j'ai dit 6e place, mais c'était à 7e place qu'on vient de faire. Ouais. Là, on est à la 6e place de notre palmarès. Qu'est-ce que c'est, ma chère Louise?
Écoute, on suit toujours de près les nouvelles, les annonces de véhicules à venir. Là, je n'embarquerai pas dans les concepts d'affaires là, annoncés là, 2-3 ans là, d'avance. Là, ça m'énerve. Je trouve toujours que c'est un peu une stratégie de retarder là, les choses. Ouais. Mais on a quelques gros joueurs qui ont été annoncés cette année. Donc, c'est ça. Il y a des nouveaux véhicules qui répondent à des besoins qui étaient plus ou moins bien comblés.
Et les gens attendent après ça depuis longtemps.
Exactement. Ouais. Exactement. Donc, bien sûr, le Ford Mustang Mach-E. Il y en a qui ne veulent pas qu'on dise Mustang en même temps, mais bon.
Ce qu'ils ont décidé.
Ouais. Je commence à m'habituer à son
nom. Ça n'a de Mustang que le nom.
C'est ça. Il y a quelques modèles comme aussi la Mini Cooper électrique. Ça, c'est cool comme nouvelle arrivée. J'ai aussi la Subaru Crosstrek qui semble pas mal confirmée également.
Ouais, traction intégrale qui risque d'être plus après abordable finalement.
Voilà, voilà. Et puis récemment, on m'a également confirmé que... confirmé, en tout cas. Tant que je le vois pas sur le site du constructeur avec un prix ou une date à peu près ou une réservation, je suis toujours un peu plus frileuse. Mais quand même, Toyota RAV4 Prime, un hybride rechargeable, ça semble être quand même assez sérieux.
Il est annoncé assez officiellement. Là, moi, j'aurais tendance...
C'est ça. Donc,
je mettrais un gros disque qui va arriver.
Voilà. Donc, ouais. C'est ça. Et puis, donc, cette 6e position, ben, on l'accorderait aux annonces importantes des prochaines.
Dans ces annonces-là, vous, messieurs, qu'est-ce qui a retenu votre attention, Phil?
C'est un autre point qui est plus loin, là, mais disons qu'on peut compter sur Tesla pour fournir sa Y. Ils sont indéfectibles.
On va pouvoir enfin dire sexy.
ça fait mal à chaque fois que Tesla rentre, ça fait mal à tout le monde. Puis ça les motive à embarquer dans le game, toujours après. C'est jamais des leaders, c'est toujours des suiveux, mais quand ça sort, ça pousse une vague. Alors là, c'est la vague des SUV qui sont capables de tirer, qui va sortir, puis ça, il est à peu près temps, là. Parce que, écoute, les autres, là, ça tire à rien. Même la Outlander, moi, personnellement, il me reste un Jeep, gros V8, j'ose pas le dire trop fort, mais il faut que je tire une bonne masse, puis Outlander, ça tire pas 5 000 livres. Donc, qu'est-ce qui compétitionne dans ce marché-là qui est important? Le Y s'en vient. Alors, est-ce que le nouveau RAV4 va pouvoir tirer un petit peu plus? Je ne sais pas, mais avec 50 km d'autonomie, je n'irai pas en Gaspésie avec tirer mon bateau. Est-ce qu'il va y avoir autre chose? J'ai bien hâte de voir ça.
Ouais, ça fait longtemps, là, tout l'aspect des véhicules un peu plus gros, que ce soit des... appelons ça des camionnettes plus familiales. Ça, c'est une gamme où il y a beaucoup de demandes. Moi, je le vois dans les conférences, en tout cas. Et les véhicules capables de tirer, que ce soit des roulottes, des trailers, des trucs très comme attendu. Ça. C'est très, très, très attendu.
Philippe, il parlait tout à l'heure de l'inspiration Tesla. Là. Moi, j'ai trouvé ça un peu drôle. Ça n'enlève rien. Le Ford Mach-E, je le trouve cool. Je trouve que l'offre est intéressante. Le prix est intéressant. Mais je trouve ça un peu drôle aussi. Même dans la description des différents niveaux, il y a un long range, il y a un standard range. C'est comme, même dans le vocabulaire.
On sent l'influence.
Il y a une influence, tu dis. C'est plus qu'une influence. Ils se sont inspirés. Puis bravo!
Oui, bravo de l'avoir fait. De toute façon, Tesla ne demande pas mieux. Ils veulent que les autres les suivent. Hein, puis c'est bien correct comme ça. C'est une approche qui est d'ailleurs... Ça aussi, c'est novateur comme approche.
Oui, ben le CEO de BMW puis Porsche, ils ont dit que c'était ceux à imiter puis à dépasser. Alors, ils l'ont acknowledge, excusez mon anglais, mais à cette heure, ils rient plus d'eux autres. Ils le voient comme vraiment un gros compétiteur. Là.
Ah, tout à fait.
Ah ouais. Moi, j'ai tout le temps l'image de Tesla qui court en avant, puis il y a les autres qui essayent de tirer en arrière là, constamment. Mais à un moment donné, ils ont comme pas le choix. Il faut qu'ils suivent. Puis moi, je vais toujours voir Tesla comme le leader là-dedans, que si ça n'avait pas été deux autres, où en serait-on aujourd'hui? Sincèrement, je ne le sais pas.
Mais moi, je peux vous dire que depuis quelques mois, je roule en Tesla, puis ouf, c'est un autre game. Ils sont un petit peu pas mal à l'avance.
Ouais. Mais, même si tu ne parles pas de la voiture, ils ont le supercharger. Alors, n'importe qui veut être sérieux dans la voiture, il va dire, ben, un jour, il va falloir que j'aille à Chicago, à New York ou en Floride. Ben, à New York, je l'ai fait avec une BMW i3, là. C'est faisable. Mais à 150 km d'autonomie, c'est plus long. Tandis que Tesla, ils ont le supercharger rapide. Qui d'autre, même la Porsche là, qui rentre, là, qui disent 350 kW, où est-ce qu'ils sont ces bornes? Avant qu'ils soient implémentés au niveau de Tesla, ça ne se fera probablement pas s'ils sont tout seuls et ils ne partagent pas avec d'autres compagnies. Ils n'ont pas les règles ou la volonté pour le mettre mondialement comme Tesla. Alors, il faut que tu aies le supercharger puis ça va toujours être leur force. Alors, tant que ça, les autres ne sont pas vraiment des compétiteurs.
Ben, juste avant de... Je ne sais pas si tu voulais passer un autre point.
Non, mais, non, c'est bon.
C'est ça. On a mentionné surtout les modèles annoncés par les grands constructeurs, mais on n'oublie pas que le Rivian s'en vient tranquillement, le pick-up. Alors, il a suscité beaucoup d'intérêt au cours des derniers mois. Là. Alors, je le vois bien, là, quand il va débarquer.
On n'a pas parlé non plus des différents modèles, mais dont certains un peu plus aboutis dans l'information dont on a pu prendre connaissance chez Volkswagen.
C'est vrai qu'ils ont toute une, gamme. Je crois comprendre que c'est étrange. Je fais des analyses là, dans des choses-là présentement là, pour un client. Et puis, le premier ID qui débarquerait, supposément que ce serait le Croz. Bon, le choix du nom. Mais c'est le ID Croz, celui qui est sur le site web présentement, qui est annoncé comme vraiment à venir, là, à court terme. À court terme d'ici un an, là. Qui semble être peut-être un peu parent avec le modèle Y de Tesla, là, tu sais, de même gamme, là. Donc, je ne sais pas trop, là.
OK.
Volkswagen, s'ils veulent faire un malheur, il faut qu'ils sortent le fameux Westphalia. Là. Quand ils vont sortir ça, il y en a un couple qui vont se picher là-dessus. En partant, toutes les familles qui ont besoin d'un genre de minivan, ils peuvent faire avec. Puis, tous les voyageurs. Ça va pogner.
Et ça a un aspect nostalgique, aspect un peu, rétro, qui est intéressant, qui peut être intéressant.
Vintage moderne.
Surtout que présentement, c'est beaucoup les boomers qui achètent les chars électriques.
tu vas pouvoir peinturer des fleurs dessus puis te faire remarquer quand tu vas aller ailleurs.
Oui, moi, je suis un martien.
Parce que les compagnies de rap vont faire les gros sous.
Ouais. Écoutez, on va faire une petite pause pour permettre à nos commanditaires de se faire connaître un peu. Puis on vous revient tout de suite après pour les 5 dernières places de notre palmarès des 10 événements marquants dans le monde de l'électromobilité pour 2019.
Hein, n'est-ce pas, Fred? êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 Route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
On est de retour à notre palmarès des 10 événements les plus marquants en électromobilité en 2019. On est déjà rendu à la 5e place. Phil, qu'est-ce qui a retenu notre attention?
On a-tu souvent entendu parler, depuis que Tesla existe, de sa rentabilité, puis de sa perte,
On fait faillite.
Sa faillite à venir. Ça doit faire 11 ans qu'on en entend parler, puis c'est drôle parce que ça, c'est un sujet qui n'a pas rapport au char. Puis ça rapporte à... faut que tu connaisses la finance. Puis ceux qui se prononcent là-dessus, ils peuvent connaître les autos, quand même à gaz, un petit peu les autos électriques, mais ils connaissent rarement la finance. Puis là, quand l'action descend, ils disent « Ah, ils vont faire faillite, j'achèterai pas de Tesla. » Ça fait 10 ans que ça monte, puis ça descend, puis ils l'ont toujours pas catché. Alors oui, ils ont fait un bénéfice de 143 millions. C'est la deuxième fois dans leur histoire qu'ils font un bénéfice. C'est pas leur priorité. Puis à partir de maintenant, ils disent qu'ils vont en faire parce qu'ils ont un bon volume, mais ce n'est pas du tout leur objectif.
Ouais, donc, le modèle d'affaires de Tesla est basé, faut se le rappeler, pendant des années, ils ont vendu des voitures qui étaient essentiellement des voitures un peu plus de luxe. Hein, on ne se le cachera pas, les Model S, les Model X qui coûtaient là, quelque chose entre 80 et 100 000, mettons. Peut-être un peu moins cher pour certains modèles, là, plus petits. Mais c'est avec ces voitures-là qu'ils ont été capables d'aller chercher le capital qui leur a permis de passer d'une entreprise relativement petite à une entreprise de classe mondiale qui fabrique dans des usines comme les grands fabricants que ça fait une centaine d'années qui sont là, GM, Ford. Donc, juste le passage de « nous n'existons pas » à « nous produisons des milliers de voitures par semaine », il n'y a aucun autre manufacturier qui a fait ça dans un délai si court. Puis pour être capable de le faire, c'est pas juste la technologie, c'est aussi le financement. Et toute la stratégie de financement d'Elon Musk a toujours été un peu ésotérique. Et comme dirait notre ami Daniel...
Oui, moi, je suis un martien.
Donc, c'est un peu complexe. Donc, il y a des entreprises qui servent à en financer d'autres. Tu sais, notre ami Elon, là, il est en train de faire des projets avec ses fusées, là. Tu sais, où il envoie des fusées dans l'espace, lancer des satellites, puis les fusées reviennent sur la Terre, puis ils reprennent deuxième fois. On n'en parle pas beaucoup de ça, mais c'est tout aussi révolutionnaire que le reste de ce qu'il a fait. Puis son but avoué de faire ça, c'est de ramasser les capitaux avec les satellites, parce que c'est des systèmes d'Internet là, par satellite. Puis l'argent qu'il fait avec ça, c'est pour financer les voyages sur Mars. Là. Lui, il s'en va sur Mars, donc avec une entreprise, avec un plan de match, ben il finance un deuxième plan de match. Donc, ça a été comme ça depuis le début. Fait que c'est dur à suivre pour des banquiers puis des gens qui sont habitués juste à regarder des colonnes de chiffres, je pense.
Effectivement.
Même si c'est plutôt le contraire, parce que ceux qui regardent les colonnes de chiffres, ils regardent deux choses. Ils regardent s'il y a des ventes, puis la marge de profit. Puis tu regardes Tesla, ils ont des ventes incroyables. Ils sont absolument pas capables de livrer. On parle pas de d'autres compagnies qui avaient de la misère à livrer, comme je me rappellerai plus de son nom, mais une start-up qui est partie en Californie en même temps qu'eux autres qui ne livraient pas. Puis la marge de profit est plus grosse que les Ford et les GM. Ils font 20% par voiture vendue. Alors, juste ça, c'est une compagnie qui fait de l'argent comme ça, pas d'allure. La seule différence avec une autre compagnie, c'est qu'ils sont partis de rien puis ils veulent grossir à une vitesse faramineuse. Donc, ils investissent tout dans le R&D au lieu de faire comme les autres compagnies. Voilà. Puis donner des ristounes à leurs actionnaires. Alors, sa vision n'est pas la même. Il veut juste exploser, grandir rapidement, puis ils ont dépassé GM, ils ont dépassé énormément de compagnies, en fait, capitalisation boursière, parce que son objectif est différent.
Oui, puis tu vois, j'allais apporter ce point-là, c'est que dans le sens que à chaque fois qu'il pogne une vitesse de croisière, tu sais, quand les Model S, tout a été comme mis en place, puis ça roulait bien, tiens, on sort le Model X, puis là, ben, ça crunch parce que là, il y a beaucoup d'R&D, il y a des petits problèmes d'enfance d'un nouveau modèle, il part ça. Après ça, bon, sort la modèle 3. Ouf, ça, c'est également, tu sais, même chose. Il reste pas assis sur ses lauriers à dire, OK, j'ai un véhicule qui fonctionne bien. Il est toujours en train de réinvestir. Et là, le modèle 3 est en train de prendre sa vitesse de croisière. Hein? C'est un des véhicules les plus... Ben, parmi les véhicules électriques, les modèles disponibles actuellement, c'est de loin le plus gros vendeur. Alors, pour une compagnie qui est toujours sur le point de la faillite...
Mais ça doit devenir là. Puis, tu sais, je suis pas un... Tu sais, j'ai pas de Tesla, là. Tu sais, ils me font triper comme ils font triper n'importe qui suit ce monde-là. Mais il y en a qui prennent ça un peu plus à cœur que moi. Mettons, quand c'est Tesla, c'est un peu plus épidermique pour certains. Puis, ils sont toujours au prix. Non, mais c'est vrai. Faut être honnête
c'est
quand même.
C'est correct de le mentionner.
Ben, oui, oui. Oui. Puis, j'ai rien contre ça, soit dit en passant. Comprenez-moi bien. Mais ces gens-là sont toujours pris pour défendre le fait que même si... théoriquement, Tesla n'est pas rentable, l'entreprise va super bien. T'sais, c'est un peu le discours qui doit venir, mais en même temps, ouais, c'est à l'encontre de ce qu'on a toujours appris. T'sais, une entreprise qui ne fait pas d'argent, puis qui a des pertes, puis qui est dans le rouge, on le sait que techniquement, ça peut faire ça pendant un bout de temps, mais ça ne pourra pas faire ça tout le temps. À un moment donné, il faut que tu fasses... Et dans le cas de Tesla, on n'a comme pas peur parce qu'il nous arrive tout le temps avec des lapins du chapeau. Oups, il se passe de quoi, ça remonte. Puis l'action, là, à un moment donné, il y a une nouvelle qui fait peur à tout le monde, elle se met à dropper. Tous les anti-Tesla se mettent à dire, vous voyez, on vous l'avait dit, les tripes de Tesla, ils en profitent pour en acheter parce qu'elle est pas chère. Puis X mois après, oups, c'est remonté. Puis ils se pètent les bretelles en disant, hey, on a fait de l'argent. Mais quand même...
Il faut pas oublier une chose, c'est que si, mettons, Elon Musk avait besoin de faire de l'argent puis paraître comme les autres compagnies, ils arrêtent du jour au lendemain le R&D. À partir de là, ils vendent une trolley de voitures à un prix avec une marge de 20 %. Alors, du jour au lendemain, ils peuvent sortir des bénéfices de 200 millions par trimestre facilement. Ils ont juste arrêté le R&D, mais ils ne veulent pas faire ça. Comme la nouvelle Gigafactory là, en Chine là, qui va coûter un autre 6 milliards. Ils veulent en sortir 4 fois 6 milliards, 24 milliards. Ils ont juste à ne pas les sortir. Et puis, le 24 milliards, ils vont l'avoir dans leur poche, dans leur revenu. Alors, ça serait très facile d'être profitable. Puis c'est pour ça que le monde qui sont à la bourse, ils continuent à acheter des actions de Tesla. Les professionnels, je parle, ils continuent à acheter des actions de Tesla parce qu'ils savent que c'est de même que ça marche. Ils ne se laissent pas influencer comme les profanes dans ce milieu-là, là, où c'est qu'ils disent, ben là, ils font pas d'argent, ils sortent dans le rouge, ils n'ont pas d'argent.
C'est quand même, tu sais, bon, on parle des propriétaires Tesla qui sont stickés sur leur voiture, mais écoute, c'est quand même un véhicule... au-delà, mais tellement loin en avant des autres, là, tu sais, je veux dire, moi, quelqu'un qui veut critiquer Tesla, là, j'ai juste un petit sourire en coin, puis là, je fais comme, OK, achète-toi-en pas une, arguments. Mais c'est pas grave.
Faut pas, on n'a pas besoin d'aller loin en arrière pour se rappeler que le Tesla, c'était pas disponible pour toutes les bourses.
Non, t'sais? C'est vrai. C'est vrai.
Le modèle 3 est arrivé il n'y a pas si longtemps.
Puis... C'est encore un peu vrai aussi. Puis c'est vrai, ça, je le disais à mon chum dernièrement. On s'est acheté une Tesla, puis on se la paye à deux. T'sais, j'ai pas les moyens de me payer ça. Là, et puis, c'est pas à la portée des bourses de tout le monde. Comme, ben, en fait... Tu sais, la Standard Range, là, elle se vend quand même genre 55 000, si on veut, là, mais comme bien des véhicules électriques, même un véhicule de 55 000 $, c'est pas à la portée de tout le monde.
Effectivement.
Ça, il faut le reconnaître. Là, ouais. C'est correct. C'est pour ça que, ben, aujourd'hui, plus on en achète, plus il y a un marché de l'usager qui se crée derrière.
Exact.
Tu sais, on a vendu notre Bolt pour la Tesla, mais un jour, je vais vendre ma Spark, ça va en faire une autre sur le marché, etc.
Tout à
etc.
fait. Là. Ma chère Louise...
Oui.
Wow, vas-y. Ah, finis ton idée. Finis ton idée, Phil.
Faut toujours comparer dans sa catégorie. Alors, quand la S est sortie, oui, c'était à 90 000, mais dans sa catégorie, on parle des A7 puis de ce type-là. C'était pas cher. Là, on parle de la modèle 3 à 55 000. Sa catégorie, c'est pas une Corolla. Là.
Non,
c'est quelqu'un qui a un choc qui fait 0 à 105 secondes. T'as une Mustang qui coûte à peu près ça, 50 60 000. Sauf que tu payes pas le gaz.
Un bon point. Puis, on sait que la modèle 3 surpasse les ventes de tous les véhicules dans sa catégorie. Fait que c'est effectivement.
Ouais,
bon
même
point.
Les véhicules à gaz.
Effectivement, oui.
Louise, on est maintenant rendu, crois-le ou non, à la quatrième place. On s'approche tranquillement de la première place de notre palmarès. quelle est cette quatrième place?
Eh bien, cette année, ça a bougé beaucoup du côté du déploiement de bornes de recharge, notamment des BRCC. On en veut partout. Alors, il s'est ajouté beaucoup de BRCC le long de, ben, tout au long de nos routes au Québec. On en est très contents. Et pour nous, c'est un élément marquant. On espère que ça va continuer. Il y a également, en plus du circuit électrique, il y a aussi du côté de Petro-Canada qu'il y a des choses qui bougent. Côté d'IGA, c'est ça, IGA, j'allais dire, et IGA également. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la nouvelle formule de multi-BRCC.
Oui.
Pas juste une, deux ou trois, ben deux ou quatre.
Deux ou quatre
ils les mettent deux ou quatre. Alors, pour moi, c'est un game changer. Plus on va en avoir, mieux ce sera. Et puis, je pense que c'est un élément marquant de 2019.
Oui.
J'ai pris un respect.
T'as-tu quelque chose à dire,
Martin? Ouais, je pourrais en dire beaucoup. Mais en fait, simplement dire peut-être en partant qu'il faut juste se rappeler qu'il y a quelque temps, un an ou un petit peu plus, on a une loi qui a été passée qui a permis de changer la façon dont Hydro-Québec pouvait disposer de l'argent pour installer des bornes.
Oui.
Donc, aller jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, devait absolument trouver des partenaires qui payaient la moitié de l'installation de la borne, là, qui remontait à quelque chose entre 30 et 40 000 là, pour la moitié de l'installation. Ça a bien été au début avec quelques propriétaires corporatifs qui étaient sensibles à la cause, mais ça devenait de plus en plus difficile. Là, le fait que c'est considéré comme de l'équipement qui appartient à Hydro-Québec, puis ils reçoivent les sous, donc basés sur les hausses de vente d'électricité dues au fait qu'on a des autos électriques. Tu sais, il faut comprendre que c'est pas l'argent qu'on met dans la BRCC qui paye la BRCC, c'est l'électricité qu'on met 365 jours par année dans notre auto, qui représente quelques 350 $ ou à peu près. À 100 000 voitures sur les routes, c'est 35 millions de profits supplémentaires.
Excellent.
C'est cet argent-là qui sert à payer les bornes, de pouvoir être capable de l'extraire, de l'isoler, puis de le donner au circuit électrique pour être capable d'installer les bornes de façon autonome. Évidemment, il faut quand même trouver un partenaire qui accepte qu'on mette la borne sur son terrain puis qui accepte les servitudes nécessaires, mais ça a accéléré, ça a facilité beaucoup, contrairement à avant, on devait trouver quelqu'un qui accepte non seulement de nous laisser l'installer, mais d'en payer la moitié des...
Je me souviens des temps où on célébrait presque le soir venu chaque nouvelle BRCC qui était mise en fonction. Ouais. Là.
Écoute, moi, j'ai assisté à la la première BRCC, là, j'avais fait... C'était peut-être pas la première d'abord. Ouais. C'était à Masquinongé. J'étais partie de Saint-Léon de Standon. J'avais monté
c'était
jusqu'à...
dans les premières, effectivement.
C'est ça, c'était alors dans les toutes premières. Ouais. Mais cela étant dit, il y a une chose, c'est qu'on remarque que c'est super, il y a un beau développement. Mais ce développement-là, on le voit autant... Jadis, on était bien garni sur la rive nord, le long de la 40, avec des BRCC, puis que la 20 était moins bien garnie. D'ailleurs, c'est quand j'ai commencé à rouler électrique que je me suis mise à prendre la 40. Mais là, aujourd'hui, moi, je suis basée à Trois-Rivières. J'ai une Spark. Ma fille prend souvent ma Spark. Et des fois, pour aller
t'as
à Québec...
T'as pas une Tesla, toi?
Oui, j'ai aussi une Tesla. Non. Mais tu sais, la Tesla, c'est...
Tu joues dans les extrêmes.
C'est ça. Je joue dans les extrêmes. Mais des fois, elle part de Trois-Rivières, puis elle passe par la rive sud pour aller à Québec. À cause des bornes qui sont beaucoup plus faciles à gérer, elle dit, il y a beaucoup plus d'endroits, j'ai un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, ouais. Et j'arrive, puis c'est deux bornes, tu sais, quatre bornes, j'ai beaucoup plus d'options, j'aime mieux...
T'as moins de risque d'avoir de l'attente.
Puis là, vous savez, la Spark, ben tu sais, il faut arrêter à toutes les heures, là, tu sais.
Mais t'arrêtes pas longtemps.
Ouais, pas longtemps, mais...
T'arrêtes pas longtemps, tu sais. Mais voilà, c'est un constat, je pense
que... ça a été le premier corridor électrique qu'on l'appelait, hein, la 40.
Oui, c'est ça.
Les 4 ou 5 bornes. Puis aujourd'hui, c'est effectivement celui qui...
Il y a la bande double à Donnacona qui a été ajoutée dernièrement, qui fait du bien un peu, mais il y a encore une petite zone, là. C'est ça. Ouais, Trois-Rivières, moi, je m'en fous des membres. Mais bon, effectivement, Trois-Rivières, on est bien. On est bien gardé.
Avec les BRCC qui sont ajoutés, moi, je dirais, le taux d'utilisation a dû exploser avec les nouveaux véhicules électriques qu'on a maintenant, aujourd'hui. Les gens achètent des plus gros véhicules, pas des plus gros véhicules, mais des véhicules avec une plus grosse capacité parce qu'il y en a beaucoup, il y en a besoin. Donc, ils doivent se promener, soit des personnes qui sont sur la route souvent ou qui travaillent sur la route.
Ouais.
Puis qui... donc, le taux d'utilisation de ces bornes-là explose et je pense que le circuit électrique, en tout cas, semble suivre la tendance. Là. Une chance.
Oui, parce que c'était ma prochaine question, justement. Tu sais, moi, je suis là depuis 2014, puis on n'avait pas beaucoup de bornes. À cette heure, on en a plus, mais de votre point de vue, là, je ne sais pas si vous partagez le même, mais moi, je n'attends pas plus ou moins qu'en 2014 que j'attendais. C'est à peu près équivalent. Ouais. Alors, il y a plus de bornes, il y a plus de monde, mais l'attente n'est pas plus. C'est juste qu'il y en a partout. Là, t'en cherches moins.
Il y a des endroits plus sensibles, je te dirais. Tu sais que moi, je vais pas nécessairement, mais qu'on le voit sortir sur les réseaux sociaux. Tu sais, comme des endroits sensibles comme l'étape, par exemple. Là, où que, tu sais, il y en a qui ont juste pas le choix de s'arrêter.
Ouais, puis, à Québec, ouais, c'est là. C'est le CA Québec, là, j'ai déjà été parqué là derrière quatre voitures. Deschambault, c'était l'enfer.
Il y a eu Drummondville à un moment donné qui revenait tout le temps. Drummondville,
j'y retournais même plus. Là, c'était trop fou. Bon, mon expérience récente est peut-être moins valide parce que, tu sais, ça, là, mais à Québec, on n'avait que la BRCC du CAA Québec. L'enfer, là, tu sais, t'arrivais là à 11h le soir, là, puis là, tu sais,
j'ai... En 2015, on était pognés sur 2,40.
Puis là, tu sais, je me souviens, à un moment donné, j'avais besoin de quelque chose comme, genre, 10-20 kilomètres. C'était une Tesla qui était parquée là. Il me dit, j'en ai pour 45 minutes. J'ai dit à ma fille, j'ai dit, dans 45 minutes, on est à Deschambault, là. On y va-tu? Tu sais, il me manquait 10 kilomètres. Donc, là, ce soir-là, j'ai vécu l'ultime range anxiety.
Mais on s'est rendu là. On sent, tu sais, la 40 est effectivement un petit peu moins bien nantie, là. Ça sera être corrigé rapidement. On sait qu'il y a d'autres endroits sur la 15 aussi qui en manquent un peu. Mais tu disais tantôt, Phil, moi, j'attends pas plus. Moi, je prends surtout la 20. Moi, dans mon cas, c'est j'attends moins qu'avant. Parce que là, maintenant, sur la 20, je veux dire, quand t'approches là, du Madrid, bon, t'en as 4 au Madrid, hein, juste un petit peu plus loin, t'en as 4 autres qui sont là. Je veux dire, faut vraiment être malchanceux pour pas être capable de tomber sur une BRCC quand tu véhicules ça à 20. Là.
Moi, je voudrais dire quelque chose à propos des bornes que je dis à chaque fois qu'on a des meetings avec le circuit électrique, avec leurs représentants. L'AVEC l'a certainement dit aussi récemment. Moi, je l'ai dit individuellement, mais quand tu arrives sur une borne que tu es occupé, ce serait-tu le fun que l'application te donne un piton, que tu cliques sur « je suis là, j'attends ». Ça leur permettrait de comptabiliser il y a combien de personnes qui attendent, parce que là, ils sortent des statistiques sur l'utilisation, mais ils savent pas, tu sais, ça a été occupé pendant 3 heures de suite, ils savent pas qu'il y a 16 personnes qui sont parties, là. Ça serait le fun d'avoir un piton qu'eux autres développent, qui dit « moi, j'attends ». Puis là, ils verraient combien il y a de monde qui ont attendu, combien de minutes, puis ils pourraient dire « ben là, c'est criant le problème, faut en rajouter une, ou là, c'est pas si pire l'attente ». Là, ils n'ont aucun data, aucune statistique là-dessus qu'ils peuvent comptabiliser, là, à part combien qu'elle a roulé de temps dans la journée. Alors, il faudrait qu'ils rajoutent ça.
Je suis certain qu'il y a des personnes impliquées qui t'écoutent.
Mais moi, j'ai plus longtemps à payer le trou fatigant.
Ah, n'est-ce pas, Fred?
N'est-ce pas, Fred?
Écoutez, on va écouter un autre petit souhait pour le temps des fêtes et on vous revient tout de suite après avec notre deuxième place.
Ici Simon-Pierre Rioux, président de l'Association des véhicules électriques du Québec. En mon nom et celui de mes collaborateurs, nous aimerions vous souhaiter de joyeuses fêtes!
Il va falloir que je lâche la boisson parce que je saute des étapes. Moi, là, on est en troisième place, on n'est pas en deuxième place. Donc, la troisième place, mon cher François, quelle est-elle?
Bon, eh bien, 2019, ça a été aussi le manque criant d'inventaire chez les concessionnaires. On dirait que c'est quelque chose qui revient, mais cette année, je pense que c'est pire que pire parce que, bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes de nouveaux véhicules qui étaient très attendus. Et puis ces véhicules-là, ben entre 6, 8 et 12 mois d'attente, là, les gens, c'est comme, ils en peuvent plus. Là.
Fait que, dire non disponible.
Aussi bien dire non disponible. Il y a eu bien des cas où, je veux dire, Tesla est arrivé à la rescousse avec la Model 3. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont tannés de certains modèles qui sont clairement allés vers celui qui était disponible. Ça a été le même cas aussi pour la Bolt, mais la Bolt qui était un peu plus, un plus vieux modèle, mais qui était encore très bien vendu et qui était en inventaire avec beaucoup d'autonomie. Donc, tu sais, quand on arrive dans les véhicules à haute autonomie, c'est bien, c'est plus abordable que ce l'était, mais ça prend de la disponibilité. Là, présentement, c'est tout sauf ça, là, ce qu'on voit.
le manque d'inventaire, là, ça sonne à mes oreilles, la loi zéro émission, ça tue assez dedans ou ça n'a rien fait?
C'était supposé d'être progressif, moi, de ce que j'avais entendu parler. Au début, c'était très, très lent. Et puis, à un certain moment donné, avec le nombre de crédits que les véhicules devaient avoir, que les concessionnaires, en fait, les constructeurs devaient avoir accumulés, ça devait avoir plus dedans. Ouais. Mais, selon moi, c'est encore vraiment, vraiment trop...
c'est trop
léger. Moi, ça me désole tellement. Là, ça me... Des fois, je viens un peu choqué carrément. Là, Les annonces des véhicules, c'est comme là, quand la e-Golf est rentrée, il y en a comme rentré 60 au pays. Là, c'est... Bon, j'exagère peut-être un peu, mais à peine. C'est ça. Alors, puis après ça, il n'y en a plus eu. Là, et c'est la même chose quand bien des véhicules. Bon, les raisons semblent être diverses, là, mais c'est un problème. Ils annoncent. Ils tardent à sortir le véhicule. Puis une fois qu'il est sorti, ben, on en reçoit 10. Là, c'est... Moi, ça me choque parce que après ça, on nous dit qu'il n'y a pas de demande. On nous dit qu'il y a 1 ou 2 ou 3 % des véhicules qui se vendent. Là, t'sais, oui, mais si tu avais de l'inventaire pour répondre à toute la demande, je t'assure, il y en aurait 15 % t'sais, ouais, peut-être 20.
Dire que l'association des concessionnaires disait que, avant la loi zéro émission, disait que le problème, c'était qu'il n'y avait pas de demande. Donc, mettez-nous pas une loi zéro émission, il n'y en a pas de demande. Eh hey boy, c'est pas tout à fait le cas.
Ben, on a eu des ventes qui ont été quand même exceptionnelles cet été. Malgré un manque flagrant de disponibilité, qu'est-ce que ça aurait été si on avait eu de la disponibilité? C'est-à-dire que la courbe exponentielle s'est maintenue, voire accélérée, pendant une période où on manquait de véhicules.
Si parce qu'on achète des modèles 3.
Moi, je suis convaincu, là, que si la disponibilité était là, avant la fin de l'année, on aurait atteint notre fameux 100 000 véhicules électriques. Je suis sûr qu'on l'aurait atteint. Parce que présentement, on n'est pas loin de dépasser le 60 000.
On est peut-être dans les 70 000 ou pas loin.
Puis malgré le fait qu'il manque de véhicules. Donc, moi, j'ai des gens au salon qui venaient me voir là, à Saint-Hyacinthe. Ils ne voulaient pas voir les véhicules. Ils voulaient l'acheter, mais ils me demandaient... Connaissez-vous des concessionnaires qui en ont plus ou où on pourrait aller?
Ouais. Regarde, j'ai des. Dans le cadre de Branchez-vous, on avait rencontré des concessionnaires, puis il y en a qui. OK, on participe, là, mais sauf que j'ai une liste d'attente là, grosse de même. Là. Et puis ils nous disaient, on voudrait garder un véhicule d'essai. Là. On veut garder un démonstrateur pour que les gens puissent au moins essayer le véhicule. Mais il arrive un client, il veut acheter le véhicule, il se choque après moi. Il se choque après moi parce que je ne veux pas y vendre. Parce que je lui dis, non, faut que je le garde pour comme démonstrateur. Je veux faire des essais, puis j'ai de la misère à me mettre la main sur un véhicule. Donc, il dit, je suis obligé de le vendre. Donc, tu sais, un peu plus tôt que pour les essais, on disait qu'il n'y en a pas chez les concessionnaires. Ils ne peuvent pas les garder. Le client va se choquer après lui. Il ne veut pas lui vendre.
N'oubliez pas une chose, c'est que s'il n'y a pas d'inventaire, il y a aussi que quand ils en rentrent une, ils n'ont pas besoin de faire des bons prix.
Non.
Il vend au gros prix, puis quelqu'un va l'acheter, c'est sûr. Oui. Il ne donnera pas une casquette avec le char. Alors, la demande est super forte. Ils n'ont pas d'inventaire. Puis, malgré tout ça, puis les consommateurs payent le gros prix, puis malgré tout ça, ils n'arrivent pas à fournir. Alors, tu vois que c'est totalement faux quand ils disent qu'il n'y a pas de demande.
Il y a des listes d'attente partout. Ouais. Je ne vois pas comment ils pourraient nous expliquer qu'il n'y a pas de demande.
L'explication qu'on entend le plus souvent, puis bon, il y en a qui... prennent avec un grain de sel. Je ne suis pas assez connaissante dans le milieu, là, mais il semblerait qu'il peut y avoir un certain entonnoir au niveau de la fabrication des batteries. L'industrie de fabrication des batteries, il n'y a pas 100 entreprises qui en fabriquent. Tesla les fabrique eux-mêmes, mais d'autres véhicules, tu sais, comme les Kia puis les Hyundai, ils ont des fournisseurs qui fournissent les batteries, puis s'il y a plein de monde en même temps qui commande des batteries, le temps que ces usines-là se mettent à les produire. Ça, c'est une explication que j'entendais déjà il y a 2 ans. Mm-hmm. Donc,
c'est valable.
Est-ce que c'est juste un manque de volonté des constructeurs ou est-ce que c'est un problème d'approvisionnement ou autre chose?
Tu sais, quand ils ont sorti Elon Musk a parlé de sa Gigafactory, de la 6 milliards là, que Panasonic a embarqué dedans, tout le monde a dit il n'y a pas l'argent, ça sert à quoi de faire une affaire aussi grosse, c'est des mesures, puis ça. Puis là, il a dit moi, j'en veux pas une, j'en veux 40. Ça, il avait dit ça il y a comme 5 ans de ça. Bien, ceux, les autres constructeurs qui disent il n'y a pas de batterie, bien, pourquoi il y a 5 ans, tu n'as pas dit je vais en faire des usines? Ouais. Là, BMW va en partir une usine, Volkswagen va en partir une qui va être prête dans 3-4 ans. C'est votre vision le problème. Vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de batterie, Vous, et puis là, vous dites, ben, OK, ouais. C'est parce qu'il n'y a pas de demande. J'aime autant paraître mieux pour ça.
Ouais.
On se
excellent.
Demande si par moment, il n'était pas en mode, c'est une vague, puis ça va passer, ça ne vaut pas la peine d'investir, puis de se virer, de s'équiper. Tu sais, quand tu veux faire de quoi, là, ben, tu t'équipes, puis tu te prépares en conséquence de vers où tu t'en vas. Avait-il vraiment l'intention d'aller dans cette direction-là? Je pense que ils pensaient que ça pourrait être une mode, puis là, ils sont comme pognés dans la vague, puis ils n'auront plus le choix.
Puis c'est bien pas à dire, c'est des excellents véhicules. Là. J'ai vu la nouvelle Kia Soul, là. Super écœurante. J'ai vu la Niro, super écœurante, mais essaye de te mettre la main dessus. Là.
Et là, ces concessionnaires-là qui n'ont pas de véhicule à vendre, commencent à vendre des Tesla neuves. que dire de ça? Plusieurs concessionnaires qui vendent, qui annoncent des Tesla neuves. Évidemment, la question, c'est mais ont-ils le droit? La réponse, ouais. c'est toléré ici, ça ne l'est pas aux États-Unis. L'autre question, c'est leur maison-mère approuve-t-il ça? La réponse, c'est clairement non. C'est quel est l'avantage de l'acheter là? Ben, c'est qu'ils peuvent faire des ventes par accommodation, ce que fait pas Tesla. C'est-à-dire qu'ils vont te racheter, tu arrives là avec une Corolla, ben, ils vont te faire une vente par accommodation. Donc, il pourrait y avoir certains avantages, oui, pour le consommateur de le faire comme ça, mais pour le concessionnaire, lui, quel est son avantage? C'est un message fort. Quand un de tes franchisés commence à vendre des voitures d'un concurrent parce que sa voiture électrique, à lui, il n'en a pas en stock à vendre, moi, je pense que ça commence à être un message très fort par l'absurde.
Oui, parce que je pense que les concessionnaires ne demandent que ça. Moi, tous ceux que je parle puis qui sont moindrement pro-véhicules électriques, ils sont de plus en plus d'ailleurs, ne demandent que ça, des véhicules électriques en inventaire. Mais
parce que leurs clients leur demandent
leur
aussi.
Leurs clients arrivent puis leur demandent.
C'est choquant pour eux autres de revirer tout le monde.
Je connais des gens, là, des concessionnaires, des vendeurs. Au moins une fois par jour, il y a un client qui rentre qui veut un véhicule électrique. C'est quand même beaucoup, là.
Mais tu sais, mets-toi dans la peau d'un concessionnaire là, qui aurait, mettons, 60 personnes qui est sur une liste d'attente pour la Soul. Ça veut dire qu'ils peuvent, d'un clin d'œil, là, faire, mettons, qu'ils feraient 2 000 $ par voiture. Là. En un clin d'œil, ils font 2 000 × 60. Ils veulent les vendre, ils demandent qu'à ça parce qu'ils ont des listes d'attente. Tandis que d'autres modèles à gaz, il faut qu'ils fassent venir un inventaire, ils vont venir 300 Corolla, puis là, dans l'année, ils vont les vendre. Mais pendant ce temps-là, c'est eux autres qui absorbent les frais d'intérêt sur l'inventaire, puis tout ça. Tandis que les listes d'attente, ça part tout de suite. Là.
C'est clair, c'est un bon modèle. Écoutez, là, c'est vrai qu'on s'en va à la deuxième place. Avant d'y aller, notre dernier souhait des fêtes.
Bonjour tout le monde, ici Pierre Tadros. Je veux vous souhaiter un joyeux Noël et une année 2020 toute électrisante. Au cours des prochains mois, nous aurons l'occasion de partager beaucoup d'informations sur les voitures électriques et les hybrides rechargeables. Encore une fois, je veux vous souhaiter de très joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt.
Bon, deuxième place, c'est vrai. François, on approche de la première place. Quel est le deuxième événement qui a le plus retenu l'attention dans le monde de l'électromobilité selon notre petit comité improvisé?
Écoute... On a eu beaucoup, beaucoup de misère à mettre celui-là en première ou deuxième place parce que c'était clairement une grosse annonce. Je pense que c'est ça qui a marqué, entre autres, beaucoup de 2019. C'est la fameuse subvention du fédéral de 5 000 $ qui s'ajoutait à celle du 8 000 du gouvernement du Québec. Je me rappelle, écoute, aussi loin que je peux me rappeler, là, au niveau de l'AVEC qui faisait de la pression au niveau du gouvernement fédéral d'avoir une participation quelconque du gouvernement au niveau de la province au niveau fédéral pour avoir une subvention, quelques incitatifs que ce soit. Et c'est finalement arrivé. Et ça a été annoncé, de ma mémoire, là, autour de fin mars.
Budget.
Au budget.
Au budget.
Mais
sans,
on
sans
les détails.
Détails.
On sans les détails. Détails. Et là, qu'est-ce que ça a fait?
Vingt. Pouf! Plus rien qui se vendait.
Et là, on s'est dit, bon, il va se passer quelque chose, ils vont l'annoncer, ça va s'éclaircir dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais non, ça a pris au moins un mois.
Un mois.
Pendant un mois, il n'y avait rien qui bougeait chez les concessionnaires. Il y en a qui étaient, même pour prendre livraison, qui ont annulé. Ils ont dit, non, moi j'attends. Alors, ça a été finalement début mai où ça s'est éclairci et que Tesla n'était pas dans la game à ce moment-là. Parce que
j'avais oublié ça.
Ouais. Il n'y avait pas. Il y avait Donc, pour rappeler, il fallait avoir un véhicule dans la gamme de véhicules qu'on offrait qui était en bas de 45 000 et pour avoir ensuite droit aux 5 000 $ jusqu'à 55 000 $ au niveau du dans la même gamme de véhicules avec les options.
Ouais, et là, en fait, quand ça a sorti, il y a à peu près... Il n'y avait pas grand véhicule qui se conformait. Là, tu sais, ça a passé d'un
effectivement. Et là, c'est là qu'on a vu tous les constructeurs s'ajuster.
Il y en a qui ont juste baissé le prix en dessous.
Juste en dessous. Il y en a qui ont joué aussi avec les frais de transport, les équipements et tout ça pour se qualifier. Et finalement, après quelques semaines, là, tout le monde était bien déçu pour la Model 3, mais finalement... Tesla s'est ajusté également.
Eux autres qui ont joué pour vrai, là. On peut débattre de l'éthique du geste.
Ouais, moi, j'ai trouvé ça fort.
Je pense que c'était legit comme défense. C'est sûr que quelqu'un vient me voir et me dit... Parce que ce modèle-là est encore disponible, là, le modèle Tesla Model 3 à 150 km d'autonomie.
Juste pour que les gens sachent, ils ont créé un modèle virtuel à 150 km d'autonomie.
Puis si jamais tu l'achètes, tu ne pourras jamais le faire upgrader pour ajouter des kilomètres.
Donc, ils te disent, il est là, tu peux l'acheter, mais tu devrais vraiment pas l'acheter.
Et là, la question qui tue, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui a acheté ce modèle-là avec cette autonomie-là? En tout cas, bref, finalement, pour offrir le modèle SR+, qui est autour de 54, c'était quelques
dollars. C'est ça, juste en bas de 55.
Qui se qualifie à la subvention et là, qui s'est vendu...
C'était fair play. D'après moi, c'était fair play.
Toi, ouais. T'aimes beaucoup Tesla.
Ouais, un petit peu. Mais tu sais, je les aime tous. Non, mais bon.
Mais c'est correct. Ça permet que les plus petits modèles de Tesla soient rendus disponibles au public. Ça l'a vraiment fait exploser les ventes.
Une chance, parce que honnêtement, quelles auraient été les ventes de véhicules au Québec si Tesla n'avait pas fait ça? Parce qu'il n'y en avait juste pas là, en inventaire là, des autres véhicules. Ouais. Là. Ouais. Il n'y en a pas eu beaucoup, en tout cas. Donc...
Mais tu sais, il y a plusieurs personnes qui ont quand même... C'est pas la limitation du fédéral fait que en haut d'un certain montant tu y as plus accès là. Et puis ça empêche pas là, les gens de s'acheter des véhicules électriques pareil, mais pour certaines personnes, puis c'est correct, moi sans 8 000 $ j'aurais pas acheté mon véhicule, mais le 5 000 ça me dérangeait pas de pas l'avoir. Mm-hmm. C'est correct là, c'est fair play là.
Ouais, c'est une subvention, hein. C'est-à-dire que normalement, avant qu'elle arrive, les autos sont là quand même, puis tu peux l'acheter au plein prix. C'est que là, tu trouves à l'acheter en bas du plein prix. Maintenant, on peut. Beaucoup de personnes avaient peur que ça ait un effet, que les manufacturiers étaient pour garder les prix hauts compte tenu des subventions. Puis dans les faits, en tout cas, au moment de l'arrivée de la subvention, c'était l'inverse qui s'est produit. Sur les petits modèles, en tout cas, le prix a baissé pour les rangs.
Ils se sont ajustés là, sur le prix. Là,
ça a donc rendu. Des fois, c'est pas des gros montants de rabais.
Ce que ça a eu comme impact, toutefois, c'est que. Tu sais, dans la brochure « Branchez-vous », là, tu sais, il y a le point d'équivalence du prix, puis des choses comme ça, là, tu sais, des indicateurs qui tiennent compte du surcoût d'acquisition. Mais à 13 000 $ là, le surcoût d'acquisition, il n'est plus là, là. Pour certains modèles, là, il n'est plus là. Puis même que, des fois, en sortant de chez le concessionnaire, tu avais déjà économisé une couple de 1 000 $.
Oh oui, effectivement. T'sais?
Donc, c'est plus, faut que tu l'achètes, puis il faut que tu le roules pendant 3 mois, 6 mois ou 1 an avant de commencer à vraiment faire des économies. Tu sais, puis tu as des modèles comme la Ford Focus, là, il en restait quelques-uns, là, tu sais, qu'ils avaient récupéré de l'Ontario, ils ont planté ça ici, ça a duré une semaine, ça a l'air, puis ils ont tous été vendus.
Ah, c'est clair.
Après,
c'est
pour
clair.
Des modèles comme ceux-là, le business case, c'était la rentabilité au moment de l'acquisition. Dès le premier mois, il y avait des économies. Là. Donc, c'est quand même... je pense à Philippe et son tableau de...
pas en parler, là, mais...
Ouais, c'est...
Je veux dire, 95% du monde prennent ça avec un prêt ou une location. Alors, quand tu regardes le coût d'achat initial, ça fait aucun sens parce qu'ils vont le prendre avec un prêt. Puis un prêt, dès le premier mois, tu as 80% du monde qui sauve de l'argent.
Ouais.
Alors, avec ou sans subvention, tu sauves, là, puis c'est pas dans 3, dans 4 ans. Mais quand tu ramènes le monde dans la réalité, c'est que tu l'achètes pas cash, ton char. Ça, c'est 5% de la population qui font ça.
Ouais, c'est vrai, ça.
Alors,
c'est
non, vrai. La subvention, ça a été très bien. Il y a eu, tu sais, il y a toujours du monde qui vont critiquer les subventions, mais sans encore une fois, c'est facile à démonter ces arguments-là. Si il y a 20 000 voitures électriques vendues par année à 5 000, ça fait 100 millions, puis juste en subvention aux énergies fossiles, c'est 4 milliards. Alors, ça serait tellement facile d'en mettre pour 1 milliard par année de subvention, puis faire passer tout le monde à la voiture électrique dans 5 ans. C'est pas une question d'argent, puis non, ça coûte pas cher à l'État ou quoi que ce soit. C'est une pinotte comparée au reste.
Effectivement, il y en a qui pensent que c'est des sommes faramineuses là, qui sont versées pour les subventions des véhicules électriques, alors que dans les faits, je sais que l'AVEC avait fait à un moment donné la démonstration que juste les ce qu'ils prennent au niveau des plaques d'immatriculation pour les grosses cylindrées, ça représente beaucoup plus que ce qui est versé au niveau des voitures, des subventions pour les véhicules électriques. Donc, ils pouvaient prendre quasiment un puis le mettre dans l'autre.
Qui est déjà un type de malus, dans le fond.
Un malus, disant, exactement.
Qui est déjà là et qui rapporte de l'argent déjà, mais on le voit pas parce que c'est sur les plaques, c'est pas sur des taxes, donc on en parle un peu moins. Mais ces gens-là se trouvent à le payer quand même. Hein,
effectivement.
Ça rapporte des sommes. On fait une petite pause, on vous revient avec la première place de notre palmarès des 10 événements marquants de 2019.
Quand vous rechargez votre véhicule, protégez votre prise contre les intempéries comme la pluie et la neige. C'est imperméable, très résistant, facile à installer et à enlever. N'endommage pas votre voiture puisque c'est un système sans aimant, même avec anti-vol pour certains modèles. Cette housse protectrice de port de recharge est disponible en plusieurs couleurs, noir, rouge, blanc, bleu et gris. Disponible sur macapuche.com 514-512-4652 macapuche.com.
Nous voilà de retour et maintenant la première place, mon cher Phil, à toi l'honneur.
C'est incontestablement la grande nouvelle de Tesla, le Cybertruck, qui a tellement fait parler pour toutes les raisons possibles.
Oh my God!
Des encore.
La fameuse laideur qu'au bout d'une heure, le monde capotait sur sa beauté. Les vitres cassées que tout le monde se sont dit « on s'en foutu ». Le show que ça a fait, écoute, ça en a fait parler. Puis en bien et en mal, je crois qu'il y a... C'est rendu qu'il y a du monde qui voulait rien savoir des pick-up qui veulent se l'acheter. Alors, rendu à ce point-là, tu sais que ça a pogné une corde sensible.
Le fameux tug of war avec le F-150 qu'on parle encore.
Ouais.
Hey, Colin.
C'est effrayant. Les premiers qui vont avoir une livraison d'un Cybertruck, moi, je vous jure qu'ils vont se faire des vinyles avec les vitres pétées, là, tu sais. C'est certain, là. Moi, en tout cas, je veux ça, c'est mon Cybertruck.
Moi, je vais pour une version spéciale badass Tesla avec les vitres pétées.
Si t'en as un, le Cybertruck, là, dans ton événement, là, apporte ta masse, puis montre-le que c'est vrai.
Ish! Mais... J'ai écouté un nombre incalculable de vidéos YouTube sur le Cybertruck. J'ai perdu un petit peu de productivité pendant quelques jours. Mais il y en avait un qui était du domaine de marketing, là, tu sais, puis qui disait que le Cybertruck, c'était un masterstroke de marketing. Puis il disait, par exemple, tu sais, que Tesla, c'est quoi, là, tu sais, Tesla, c'est quoi la promesse de Tesla? Puis la promesse, selon ce gars-là, c'était... le fait qu'ils amenaient « bringing future to today », c'est qu'ils amenaient le futur dans le présent. Mm. Et puis le Cybertruck était une démonstration des plus éloquentes du futur amené à aujourd'hui. Ouais.
Puis Elon, moi en tout cas, j'en ai vu des dévoilements là, de Elon Musk, là, le semi de Tesla que j'avais adoré, le Model 3 évidemment, puis celui-là, j'avais tellement d'attentes, et puis
capoté ce jour-là, c'est vrai.
J'ai dit, my God, c'était quoi ça?
J'ai trouvé que c'était un événement raté. Moi, si tu m'avais demandé, c'est l'événement, je trouvais que c'était raté.
Je trouvais que c'était un fail monumental. Au moment où j'ai fini de l'écouter. Puis quand j'ai vu le truck, j'ai fait « OK, il avait parlé d'une version pressurisée qui allait sur marche. Il m'a dégagé que c'est ça là, puis l'autre va s'en venir après sur la scène. » Mais il n'est jamais venu sur la scène.
Un mec qui pensait que c'était une joke.
C'était pas une joke, c'était celui-là. Et puis, quand j'ai eu fini d'écouter ça, je me suis dit « Bon, ben ça y est, c'est un flop total. » Et puis...
Tesla va faire faillite.
250 000 ventes.
De fil en aiguille, c'est ça. Non, ça continue de se faire jaser comme j'ai jamais vu. Ouais. Et puis, regarde aujourd'hui où on en est rendu.
Moi, je vous partage un petit peu mon expérience. Moi, j'ai raté le live. ce qui a probablement aidé là, à mes étapes de deuil, si on veut. Et puis, je suis arrivée à la maison peut-être une demi-heure après, là, tu sais, puis là, mon chum, c'est sûr, il voulait que je regarde ça, là. Et puis, tout de suite, moi, ça a été flingue, il n'y avait pas d'intro, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Tiens, c'est ça le Cybertruck. What the f... Hein?
C'est comme... Ça aussi, ça va te couper au montage.
Et puis, tu vois, j'ai ma fille qui me dit, tu sais, moi, j'étais comme, oh my God, c'est quoi cette affaire-là? Puis j'essaie de comprendre, ça dure peut-être 5-10 minutes. Puis à un moment donné, je commence à me dire, OK, c'est futuriste et tout. Puis là, on me demande, est-ce que tu te vois au volant de ce véhicule-là? Puis je me suis imaginé, pas au volant de la voiture, je me suis imaginé ça à 40 à Trois-Rivières, en train de me faire dépasser par un Cybertruck. Puis là, j'ai dit, hell yeah!
Puis le pire, c'est qu'il l'a dit dès le départ. Hein? Il l'a dit, ça, il a montré, il a pris la peine de montrer tous les pick-up qui a traversé l'histoire depuis les 100 dernières années, puis il a averti les gens. Il dit, c'est quelque chose qui ressemble en rien à ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Puis il avait raison.
Ah ouais,
c'est exactement ça.
Pour ça, ça ressemble à rien. C'est le moins que l'on puisse dire.
Je ne sais pas si vous avez écouté.
Je sais pas si vous faites pareil. Oh, vas-y.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a des raisons derrière ce pliage-là, comme ça. Là, des
oui,
raisons
absolument.
Technologiques.
Oui.
Mais Phil, vas-y.
Faites-vous pareil à cette heure depuis qu'il est sorti. Là, avant, moi, les pick-up, ça ne m'intéressait tellement pas. Mais là, je les regarde toute la gang sans arrêt. Puis je dis, il est lettre. Ils sont toutes lettres. Puis tu regardes. Puis c'est vrai, c'est toute la même affaire. Même, je trouvais, mettons, les Dodge Ram.
Moi, je les regarde, puis je dis...
Un petit look.
Moi, je dis, c'est ça. Moi, je dis troc de princesse.
Mais comme Louise disait, effectivement, j'ai lu après. Tu sais, le moment où ça a changé dans mon esprit, là, le moment où ça a changé, c'est un article qui est sorti sur Inside EV. C'est une personne qui parlait, tu t'en rappelles, il parlait de la raison, ben, toutes les raisons du pourquoi de ce truc-là, comment il était fait. Et c'est là que j'ai catché parce que ça. C'est drôle, hein? Elon, y a-tu fait exprès de ne pas en mentionner plus de détails dans son dévoilement? Peut-être. Mais ça m'a échappé tellement qu'on était comme éblouis, là. la structure du camion, c'est la carrosserie.
Ouais.
Donc, il n'y a pas de cadre contrairement
l'exosquelette,
à... L'exosquelette. Et c'est le même type de fabrication qu'ils utilisent pour les avions furtifs. Pour sauver du poids, pour la solidité. Puis là, j'ai fait comme, OK, c'est vraiment une première, là, tu sais. Puis il a été joué dans les coins, là, si on peut dire, juste pour ça, là. J'ai fait comme, OK, là, je comprends pourquoi que ça...
En tout cas, j'ai hâte de voir le premier Cybertruck live.
Ouais, ouais.
Et je vais pouvoir dire, Louise, what the frunk?
What the frunk?
Mais avec un beau rap, tu vas faire pas au monde d'impressionnement.
Est-ce que
tu
as commandé un Cybertruck, Phil?
J'ai mis mon nom.
Bon.
Un autre. Il n'y a pas juste toi autour de la table ici, Phil. Ça t'a pas coupé.
Moi, j'ai toujours mon JV8 qu'il faut que je me débarrasse. Voilà. Alors, rendu là, on va voir ce que ça donne. Pour pis-aller, je peux vendre probablement ma place 2000$.
Ouais, c'est ça.
Parce que j'ai été un des premiers. Là.
Excellent.
Ouais. Si on revient en terminant sur l'événement comme tel. Tantôt, vous avez dit d'entrée de jeu le fait que, bon, il y a eu des fails, là, je veux dire, les vitres puis tout ça. Comment vous avez réagi à ça? Ça vous inspire pas? Est-ce que ça vous a inspiré un manque de préparation ou au contraire, vous vous dites, peut-être même c'était stagé, ça a vraiment fait. Ben, ça a fait jaser, là.
C'est ça. Au début, moi, j'ai fait comme, oh my God, j'ai eu un malaise, là, pendant que c'est arrivé. Puis, paraît. C'est pas mal ça que ça a fait dans ma tête.
En plus, ils l'ont fait deux fois, là. Tu sais, ils se rassaient une deuxième fois.
Ils n'ont pas appris du premier coup.
Aïe, aïe.
En tout cas, peu importe comme.
Que les vitres. Ouais. Tu t'attends pas à ce que les vitres soient résistantes à tout. Alors, il n'y a pas. Tu sais, ta porte de truck n'a pas poqué. Ça, ça a marché, cette affaire-là. Il disait que la tôle était solide. Mais les vitres, c'était résistant. Mm-hmm. Alors, quand il ne l'a pas eu une fois, puis il ne l'a pas eu deux fois, j'ai dit, oh, ça doit être organisé, puis de toute façon, on s'en fout des vitres. C'est des vitres latérales. Il faut que ça pète avec une grosse balle d'acier de même. Là. Ouais. Alors, c'était pas un fail parce que. on ne saura pas si c'était voulu ou pas. Moi, j'ai... Ça a fait le tour de la planète juste à cause de ça.
Ben oui, absolument.
Moi, j'y ai pensé que c'était voulu jusqu'au temps que Musk il sorte une vidéo sur son compte Twitter. Mais après ça, je dis peut-être qu'il l'a mis pareil, même si c'était voulu. Mais je reste avec un doute. C'était-tu par exprès ou pas? Parce que c'est ça qui a fait.
Écoute, ben là, un gars qui envoie des fusées dans l'espace qui est fait atterrir puis qui manque ça. Tu sais, oui. Entre toi puis moi,
ouais,
là.
Ouais, la question se pose. La question se pose. Écoutez, messieurs, dames, le temps file méga vite puis je voudrais quand même prendre le temps de vous remercier de l'exercice à laquelle vous vous êtes prêté aujourd'hui. Je pense qu'on a réussi à faire le tour de 10 points assez intéressants puis nos auditeurs pourront nous laisser des commentaires. Vous êtes toujours les bienvenus à nous écrire, que ce soit sur la page Facebook ou encore m'écrire à martin@silenceonroule.com. Je vous rappelle que je prends un petit congé parce que, eh oui, moi aussi, j'ai le droit de me reposer avec les miens. Donc, le prochain épisode sera de retour le vendredi 17 janvier 2020, bien entendu, mais d'ici là, je vais prendre un petit peu de recul, puis on va espérer qu'il va neiger un peu, puis aller jouer dehors, en profiter. Faites la même affaire, ça fait pas de tort.
N'est-ce pas, Fred?
N'est-ce pas, Fred, oui. T'es un vrai humoriste. Donc, j'aimerais remercier mes collaborateurs aujourd'hui. Louise Lévesque, merci beaucoup de ta présence.
Merci à toi.
François Villot, merci François.
Merci
comme
beaucoup.
D'habitude, ce fut un plaisir. Philippe Janson, même à distance, pas facile, mais ça a fait la job.
Ben oui, à prochaine. Ben oui, absolument.
On a eu du fun. Je vais en profiter pour remercier nos collaborateurs réguliers à l'émission, Claude Gauthier, Pierre Tadros, Mélanie Réaume, Stéphane Levert, qui font un super bon travail tout au long de l'année. Merci à vous quatre. Reposez-vous, vous autres aussi. On a besoin de vous autres en janvier. Un merci tout particulier aujourd'hui à tous les bénévoles et particulièrement nos directions régionales de l'AVEC qui font un travail formidable sur le terrain, semaine après semaine, sans compter les heures. Voire même, ils ont du fun. Tabarouette, des vrais bourreaux de travail, mais en même temps, quand t'es passionné, puis ça paraît. Et c'est ce que nous, le monde nous dit partout, à quel point ils n'en reviennent pas de la passion avec laquelle les gens donnent du temps pour faire essayer leur propre véhicule. Le public, en général, n'en revient jamais de ça. Donc, à vous tous qui êtes le cœur et l'âme de l'Association des véhicules électriques du Québec, merci beaucoup. Passez un très, très, très joyeux Noël. Je vous rappelle que la reproduction, la diffusion de l'émission est permise, mais Silence on roule apprécierait en être avisé. Toutes les questions qui concernent l'émission peuvent être adressées à martin@silenceonroule.com et les questions générales qui regardent l'électromobilité ou l'association peuvent être envoyées à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, notre site web est le www.aveq.ca. Et sur notre site web, pour vous faciliter la tâche, vous aurez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à les hyperliens, que tous les hyperliens vers les thèmes qu'on a traités aujourd'hui, donc les 10 thèmes, vous pourrez aller lire là-dessus. Le tout directement au www.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi
Silence on roule!